Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Porte-Monnaie.
Pour cet épisode, on osera sortir un moment du capitalisme. On se fera mécréant de la religion libérale et on parlera décroissance soutenable avec Yves-Marie Abraham, professeur agrégé à HEC Montréal. Le PIB mondial dépasse les 80 000 milliards de dollars américains. Apple et Amazon valent plus que 1 000 milliards de dollars. 82% des richesses créées l'année dernière ont fini dans les poches du 1% les plus riches. Les marchés financiers se sont remis de leur crise et nous vivons le plus long marché haussier de l'histoire. Les gens travaillent plus, consomment plus grâce au flux permanent de publicité.
Parlant des fléaux qui nous frappent, les changements climatiques pourraient transformer la Terre en fournaise.
Un rapport accablant de l'UNICEF nous apprend que la pollution est l'une des plus grandes menaces pour la santé des enfants.
Justement, aux prévisions du temps, la rentrée sous le signe de la chaleur.
Bref, tout va bien dans le moins pire des mondes. Le but de nos économies mondiales est de produire plus chaque année. C'est ce qui nous dirige et donne un sens à nos vies, c'est la croissance. Mais voilà que des emmerdeurs viennent remettre tout ça en question. Pour eux, une croissance illimitée dans un monde limité ne peut pas fonctionner. L'alternative pour ces objecteurs de croissance, c'est la décroissance soutenable. En finir avec cette croissance donc, avec ce système économique dysfonctionnel et ses émissions de carbone toxique, pour permettre à l'humanité de prospérer en convivialité dans son environnement. Mais il reste une petite question quand même. Comment la faire, cette décroissance? On en parle avec professeur Abraham. Bonjour Yves-Marie Abraham.
Bonjour.
Alors, que signifie décroissance?
Donc décroissance, ça a été à l'origine un slogan provocateur lancé donc en France au début des années 2000 par des critiques du développement durable qui n'en pouvaient plus de voir que ce discours se répandait partout sans effet véritable sur le plan écologique notamment, ni sur le plan social d'ailleurs. Donc c'est vraiment une réaction de rejet en fait hein, de cette proposition d'un développement durable. Donc lancé donc il y a à peu près 18 ans maintenant, 2002 je crois que c'est reparti. En même temps les idées qui sont derrière ce slogan, quand on en fait la généalogie, elles sont plus anciennes, en fait, on peut les faire remonter très loin, jusqu'au 19e siècle. Mais surtout, les années 60-70 sont des années qui ont été très riches dans la critique de ce modèle croissanciste. Par contre, le mot décroissance a été très peu utilisé à l'époque. Et on peut penser que le développement durable, qui a été mis en orbite, en quelque sorte, par des grands organismes internationaux, par les États, est une espèce de contre-feu politique contre ces critiques, qui étaient des critiques radicales, en fait. Ce contre-feu consistant à dire, écoutez, oui, c'est vrai, il y a un problème écologique, oui, c'est vrai, il y a un problème d'injustice sociale, mais on peut y arriver à concilier à la fois la croissance économique, donc la poursuite de la dynamique croissanciste, et par ailleurs donc le respect des limites biophysiques de la planète et une plus grande justice sociale.
Ok. Et puis justement, l'une des questions qu'on se pose, c'est comment on la met en place? Concrètement, à quoi ça ressemble une société décroissante?
Ouais. Donc c'est évidemment une excellente question, mais à laquelle on ne peut répondre que en se demandant d'abord pourquoi il y a croissance. Parce que si on passe à côté des bonnes causes de ce phénomène, on va aussi passer à côté des bonnes solutions à trouver à ce problème. Pour le faire sentir, on entend beaucoup dans des milieux écologistes ou en général sur les médias sociaux, face au constat des crises écologiques, de la catastrophe écologique en cours, que c'est l'humanité qui est en cause. Bon, alors est-ce que c'est l'humanité qui est en cause? Dans la décroissance, on pense que non, c'est pas l'humanité qui est en cause, que c'est un certain système social, économique qui est en cause, qui a une histoire relativement courte à l'échelle de l'histoire de l'humanité, qu'on peut appeler le capitalisme. C'est ça qui est en cause derrière cette croissance. Et donc c'est ça dont il s'agit de se défaire. Pour plusieurs raisons, en fait. D'abord, il faut reconnaître que nos sociétés ont effectivement besoin de croissance. Telles qu'elles existent aujourd'hui, telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, nous avons besoin de croissance, sinon les caisses de l'État se vident, les entreprises n'embauchent plus, mettent à la porte, etc. Enfin, donc avec tous les effets secondaires que ça peut entraîner. Donc on est bien dans un système qui nous contraint. Pourquoi vouloir en sortir? Donc les trois grands motifs. Il y a un premier motif qui est le plus évident, qui est le motif écologique. Produire toujours plus de marchandises, puisque c'est ça dont il est question, ça suppose de puiser toujours plus dans nos ressources naturelles d'une part, et ça suppose de générer toujours plus de déchets, et d'autre part un épuisement de ressources cruciales pour nous. La deuxième raison, c'est que cette croissance, elle s'avère finalement ne pas tenir ses promesses en termes de justice sociale. En fait, on a eu une croissance fabuleuse à l'échelle mondiale depuis 70 ans maintenant, et pourtant, on voit se creuser sans cesse davantage les inégalités entre pays et au sein des pays. Donc ça, c'est le deuxième argument contre la croissance, sortir de là. Il y en a un troisième qui est plus difficile à présenter. En gros, ce système-là fait de nous des espèces de hamsters, en fait, pris dans leur roue, parce qu'il faut produire, en fait, hein, et on est tous contraints de produire, quels que soient, finalement, nos idéaux politiques. Enfin, pour vivre, il faut que je vende ma peau sur le marché à quelqu'un qui voudra bien m'embaucher, et il va me garder, il va me payer si, effectivement, je suis profitable à son affaire. Donc, et lui-même, il ne va continuer à exister comme capitaliste que s'il arrive à faire des affaires. Donc, on est vraiment tous contraints là-dedans. Même un capitaliste très bien intentionné, qui veut faire de l'écologie, qui veut faire du social, il va le faire dans les limites de sa rentabilité. Et s'il dépasse ses limites, bah, il va avoir des concurrents qui vont lui prendre sa place et il va disparaître comme capitaliste, qui va se retrouver simple salarié, etc. Donc il y a bien une contrainte très très lourde qui pèse sur les épaules de tout le monde, plus ou moins lourdement. Évidemment, ça pèse plus à la base de la pyramide qu'en haut, mais ça pèse aussi en haut. Et donc c'est ce caractère aliénant, en fait, donc déshumanisant de la croissance qu'on veut aussi mettre en cause.
Parfait, mais l'une des grosses questions vis-à-vis de la décroissance, je vais vous montrer après des personnes qui trouvent que c'est une initiative très noble, je les cite, mais qui lui posent des questions de faisabilité. Par exemple, il y a Yannick, qui fait partie d'un club d'investissement responsable québécois. Et donc lui, il investit dans le marché boursier, il veut investir dans des entreprises responsables. Et pour lui, la décroissance, il y a un problème de faisabilité, notamment au niveau de ce qu'on demande aux gens ordinaires, par rapport au fait qu'ils doivent se défaire de leur confort. Je vais vous faire écouter ça.
Je vois mal comment on est en mesure de dire à l'ensemble de l'humanité, à des humains qui aujourd'hui encore ils vont pour des 4x4 au lieu d'y aller avec des options plus aptes pour l'environnement. Comment on dira à ces gens-là, ben non, toi, change complètement tes habitudes, tes aspirations, ben ça marche pas. Non, je pense qu'on peut les adapter.
Donc la question, en fait, c'est est-ce que la décroissance, ça va demander aux gens qui ont déjà cette pression dont vous avez parlé sur les épaules, de mettre fin à leur confort, de faire énormément d'efforts pour passer à cette décroissance-là?
Je vais essayer de répondre en trois étapes. D'abord, la première réponse qu'on peut faire à une objection comme celle-là, c'est que la décroissance va se produire, de toute façon. Et que de grands économistes parlent actuellement d'une situation de stagnation séculaire. C'est-à-dire qu'en fait, en Occident, nos taux de croissance sont tels qu'on est proche de la croissance zéro. Donc on n'est pas dans la décroissance, mais on en est déjà très proche. Et ne serait-ce que pour des raisons écologiques, qui vont s'imposer avec toujours plus de force dans les années qui viennent, il va se produire une décroissance. Donc le projet de la décroissance soutenable, ce qu'on veut, c'est une décroissance qui serait contrôlée, qui serait accompagnée, plutôt qu'une décroissance sauvage, subie, du fait notamment des événements écologiques là qui vont se produire à l'avenir. Donc je dirais que le choix il est là aujourd'hui. Bon, et des remarques comme celle de Nicolas Hulot devraient alerter tous les gens un peu soucieux de ces questions.
Nicolas Hulot, l'ancien ministre
d'État en charge de l'écologie. En France, ouais.
Qui a démissionné.
Donc, qui n'était pas du tout un anticapitaliste au départ. Bon, il se serait pas embarqué avec Emmanuel Macron si ça avait été le cas, mais qui découvre d'une certaine façon à quel point il est coincé d'une part et tout en ayant conscience du fait que la situation est absolument catastrophique et ne va pas s'arranger dans les décennies qui viennent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la décroissance, en fait, est surtout un anti-productivisme. C'est pas du tout un discours qui va dire aux gens, et surtout pas aux plus modestes, serrez-vous la ceinture, il faut que vous balanciez vos bébelles, etc. Non, ce qu'on attaque, c'est au niveau du système de production, c'est au niveau de la production qu'il faut intervenir, d'où l'idée qu'il faut effectivement avoir un mouvement politique suffisamment puissant, avec toutes sortes de stratégies qu'on peut déployer, pour questionner ce système de production. Si on produit moins, évidemment, on consommera moins. Donc ça, c'est automatique. Donc par contre, aller culpabiliser, responsabiliser des gens qui, en fait, sont dans une large mesure, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, au service d'un système, n'ont pas le contrôle sur le système, c'est les mettre dans une position impossible. Une espèce de situation paradoxale, là, de double lien, comme on dit en psychologie. Bon, ça c'est pas possible, ça rend malade. Bon. Donc il s'agit vraiment pas d'attaquer du côté de la consommation, mais vraiment du côté de la production, avec un impératif, par ailleurs, qui est de dire, il est crucial de partager bien davantage nos ressources aujourd'hui qu'elles ne le sont actuellement. Ce qui débouche, pour employer des mots qui font peur, au 19e siècle c'était des choses évidentes, mais on a complètement l'idéologie libérale a tellement gagné en force depuis qu'on n'ose même plus formuler ce genre de critique, mais ça débouche sur la critique de la propriété privée, c'est-à-dire qu'il faut mettre des limites à la propriété privée, ça paraît indispensable. Non pas interdire à quelqu'un d'avoir un endroit où il habite, ça paraît au contraire quelque chose d'essentiel, donc ce qu'on appellerait une propriété d'usage. Par contre, limiter, voire interdire la propriété lucrative, c'est-à-dire la possibilité de faire de l'argent avec quelque chose qu'on n'utilise pas soi-même, qu'on fait utiliser à d'autres pour en retirer un profit. Donc ça, c'est des vieilles affaires révolutionnaires, mais qui ont rien perdu, à mon avis, de leur pertinence. C'est le slogan de Zapata, révolution mexicaine, la terre appartient à ceux qui la travaillent. Bon, donc, les maisons appartiennent à ceux qui les habitent. Bon, et les machines, s'il en reste, elles appartiennent à ceux qui les font fonctionner. Ce serait là-bas. Donc ça suppose évidemment ça suppose une redistribution. Comment ? Ça, il y a toutes sortes de débats. Est-ce que l'État peut être un moyen, une institution qui peut imposer cette forme de redistribution dans une certaine mesure ? En même temps, quand on fait l'histoire de l'État, on se rend bien compte qu'il est intimement lié à la dynamique capitaliste. Enfin, les deux émergent pratiquement en même temps. Donc il y a aussi des raisons de se méfier de l'État. Moi, je pense que plus ça va, plus je pense que les choses vont changer du fait de ces catastrophes, de ces blocages qui vont se produire de plus en plus, qui vont en fait affaiblir les États à un point tel que ils seront plus en mesure d'assurer ces espèces de reproduction de la société. Ça va générer des brèches en fait dans lesquelles il faut s'engouffrer. Il y a déjà des brèches, elles vont s'élargir et il faut s'y engouffrer pour y développer ce qu'on appelle de plus en plus là dans des milieux alternatifs des communs, donc d'autres façons de vivre ensemble. Qui sont basés ni sur la propriété publique d'État, ni sur la propriété privée, mais sur quelque chose de partagé, dont on est plutôt responsable que propriétaire, et qu'on va chercher à la fois à se partager de manière soutenable et de manière autogérée, en fait, dans une large mesure. La forme d'organisation qu'on a vu se développer avec la chute de l'Empire romain en Occident, par exemple. Les communs médiévaux sont dans une large mesure une espèce de réaction à cet effondrement de l'Empire romain qui a laissé des brèches telles que les humains se sont organisés et se sont donnés ces communs.
Dans les années 60, il y a eu ce concept de simplicité volontaire et il y a eu à l'époque des hippies et tout ça, ce qu'on appelait les communes ici. Est-ce que ça va un peu dans ce sens-là ?
La commune, c'est un peu la forme ultime du commun, quoi. Mais un commun, ça peut être tout simplement un bout de terre qu'on se partage, qu'on gère ensemble pour notre propre usage, en fait. Donc la commune, d'une certaine façon, elle va chercher à satisfaire un peu à tous les besoins. Un commun, on va satisfaire un ou plusieurs besoins en développant un commun. Bon, à Montréal, on en a des très beaux là qui se développent et qui se multiplient, ce qui se fait au bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles. On est vraiment dans cette logique de la communalisation. En fait, on a un quartier qui ont réussi à s'approprier ce fameux bâtiment industriel pour y produire des biens et des services au service de la communauté et en fait produit. Par la communauté également, donc c'est vraiment l'idée du commun, c'est qu'on est dans une logique d'autoproduction plutôt que de produire des marchandises qu'on va vendre à d'autres pour retirer de l'argent avec lequel on va pouvoir s'acheter d'autres marchandises, c'est plutôt d'essayer autant que possible et collectivement d'autoproduire ce dont on a besoin, ce qui ne veut pas dire qu'on va tous produire tout ce dont on a besoin, mais collectivement, avec un minimum de division du travail, on peut très certainement s'en sortir.
Justement, vous parliez tout à l'heure d'aliénation. L'aliénation mène à une inconscience de sa condition d'aliéné. Et en plus, on parlait de publicité, etc. La publicité mène à renforcer ce sentiment-là. Donc comment est-ce que politiquement et démocratiquement mener des gens vers la décroissance alors que eux, on leur rabâche depuis des années et des années qu'on va vers la croissance ? Est-ce que finalement, faudrait pas avoir une forme autoritaire de la politique pour justement mettre en place la décroissance ?
C'est aussi une très belle question. Je dirais que on se rejoint pas mal dans la décroissance autour de l'idée que justement l'idée d'une décroissance soutenable ou conviviale, c'est une façon, une stratégie possible pour essayer d'éviter ce qu'on pourrait appeler un écofascisme. Parce que c'est vers ça qu'on va, c'est-à-dire que quand la situation écologique va être tellement désastreuse que il va falloir imposer des formes de rationnement, etc., on va très certainement avoir la tentation de mettre en place une autorité forte qui va assurer ce rationnement, assurer encore un minimum de sécurité, etc. Donc, et là, évidemment, en termes d'autonomie politique, en termes d'aliénation, ça va être le pire du pire. Enfin, donc, c'est ça qu'on veut éviter. Comment est-ce qu'on peut le faire? Évidemment, c'est très difficile dans un pays comme le Québec où apparemment les choses tournent quand même à peu près bien, les gens ont l'air d'aller à peu près bien, on a encore à peu près à manger, on a des loisirs qui nous distraient, etc. Donc peut-être deux arguments, dont un que je voulais glisser tout à l'heure et qui m'a échappé. D'abord, en fait, si on regarde les choses sur un plan écologique, pour respecter ces fameuses limites biophysiques là qui sont pas faciles à mesurer, revenir à un PIB tel que celui qu'on connaissait en Occident après la Deuxième Guerre mondiale pourrait très largement suffire. Bon, évidemment, on n'était pas aussi nombreux. Il ne s'agit pas d'un retour au Moyen-Âge et encore moins à l'âge de pierre. Donc, on ne vivait pas dans la misère à ce moment-là, en Occident, surtout pas en Amérique du Nord. Donc ça, c'est un premier point de repère important. Le deuxième chose que je pourrais dire en réponse à votre question, c'est en fait pointer du doigt tout ce qui dans nos vies, bien qu'en apparence elles soient finalement quand même, elles sont privilégiées par rapport à bien des vies humaines sur la planète aujourd'hui, mais même ces vies très privilégiées, ça se passe pas si bien. C'est-à-dire, il y a notamment toutes ces maladies de civilisation qui sont développées au cours du XXe siècle, qui en fait nous gâchent la vie littéralement. Donc ce sont effectivement des maladies dont on meurt rarement, mais qu'on garde longtemps. Et on vit avec ces maladies, avec
la dépression.
Mais on peut faire des liens entre un nombre important même de cancers et notre mode de vie, entre l'obésité et notre mode de vie, entre le diabète et notre mode de vie. Donc, tout ça, c'est des maladies qu'on vit le plus souvent de manière individuelle, personnelle, comme une espèce de malchance, etc. Mais quand on regarde les choses d'un point de vue statistique, quand on fait appel à des épidémiologues qui étudient ces maladies, donc à l'échelle d'une société ou d'une civilisation, on se rend bien compte que ce sont des phénomènes sociaux qui sont indissociables de cette course dans laquelle on est embarqué. Donc moi, une façon que j'ai d'aborder des gens qui ont l'air d'être tout contents d'être dans ce monde-là, c'est de les questionner un peu sur leur vie, qu'est-ce qui va bien dans leur vie ou pas. Donc ça, il y a toute cette question des maladies qui font que on voit notre espérance de vie qui augmente, quoique on commence à avoir des signes de fléchissement. Aux États-Unis, ça fait deux ans de suite que l'espérance de vie a décliné, bon, notamment à cause des fameux opioïdes, mais probablement que cet indicateur-là lui-même va fléchir, mais même s'il continue pour l'instant à augmenter, l'espérance de vie en bonne santé, elle, n'augmente pas en fait. Donc, c'est là où on revient sur l'idée d'aliénation, en disant mais écoutez, est-ce que c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? C'est-à-dire, vivre très longtemps, mais malade très longtemps. Enfin, c'est bon. Deuxième argument, en fait, c'est de demander combien il y a de gens qui se lèvent le matin en étant surtout très impatients que le soir arrive. Bon, et y en a beaucoup, pas dans des postes comme les miens, j'ai la chance de faire un métier passionnant, mais je suis très privilégié, mais il y a beaucoup d'humains aujourd'hui qui se lèvent et qui n'ont qu'une envie, c'est d'arriver au soir. Or, ils sont là, pour les plus chanceux d'entre eux, ils vont faire ça pendant 30 ans de leur vie, 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Donc ce qui est quand même, c'est-à-dire donner l'essentiel de sa vie à des activités dont on veut pas, fondamentalement. C'est pas évident, mais partir par ce biais-là, là, faire sentir aux gens, mais attendez, vous êtes vraiment content de faire ce que vous faites? Vous êtes vraiment, vraiment heureux? C'est vraiment ce dont vous avez rêvé, comme vie? Ça me paraît être une bonne entrée en matière. Difficile parce que on a connu ces épisodes de chômage de masse qui nous ont fait aimer le salariat. Enfin, on a une job aujourd'hui, on est très heureux, et puis c'est normal. Enfin, c'est puisqu'on peut pas vivre autrement qu'avec une job. Donc cette critique, elle est difficile, parce que tout fait que on ne peut que se féliciter de trouver une job, mais en même temps, quand on en a une, on a des millions de gens qui rêvent être arrivé déjà le soir, à être arrivé déjà aux vacances. On vit pour quelques semaines de vacances, qui sont en plus des moments de repos pensé comme un repos pour retourner au travail. Enfin bon, c'est toute une vie dont on peut questionner le sens assez facilement.
Justement, on questionne beaucoup, mais on ne répond pas énormément à ce qu'il faudrait faire. Justement, en termes de travail. Donc, si on enlève la croissance ou qu'on la réduit beaucoup, si on enlève beaucoup de production, etc., il y a des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui vont être sans emploi. Comment est-ce qu'on voit le travail dans une société décroissante ?
Fondamentalement, un des enjeux clés, c'est justement de sortir d'une société du travail, c'est-à-dire du travail entendu au sens de l'emploi. Donc, comment sortir du salariat, qui est ce qu'on appelle en sociologie la médiation sociale centrale de nos sociétés. C'est de ça dont il s'agit de sortir, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle on a une petite minorité qui contrôle les moyens de production, qui sont en fait les moyens d'existence, ce qui force la grande majorité finalement à se vendre à cette minorité pour obtenir de l'argent, pour pouvoir acheter des marchandises. C'est ça qu'il faut briser. Ça porte un nom en fait, pour être très concret, pour pas rester dans des grands concepts, c'est l'entreprise en fait. Donc pour moi, un des enjeux clés, c'est en fait d'abolir ou de marginaliser l'entreprise privée. Ça me paraît être vraiment crucial. Donc tout ce qui peut être fait pour fragiliser, pour marginaliser l'entreprise privée me paraît être dans le bon sens. Et tout ce qui peut être fait pour favoriser des formes d'organisation qui n'ont pas pour objectif l'accumulation de profits me paraît être dans le bon sens. Puis là, ça peut se jouer sur un terrain politique. C'est-à-dire qu'on peut, c'est ce que fait un parti comme Québec solidaire, qui va vouloir effectivement fiscaliser bien davantage l'entreprise privée et qui va vouloir soutenir, donc au contraire, le secteur associatif, le secteur communautaire, etc. Donc il y a des choses qu'on peut faire assez rapidement, comme interdire la publicité ou en limiter par exemple l'expansion. Là aussi, c'est autant d'espace gagné sur l'entreprise. Pour développer toutes sortes d'organisations qui ont essentiellement pour objectif de satisfaire des besoins immédiats sans cet impératif d'être profitable à tout prix. Bien sûr qu'il va falloir trouver de quoi nourrir les gens qui font tourner ces organisations, etc. Donc il y a bien une forme de rentabilité à trouver, d'équilibre à trouver, mais pas cette nécessité du toujours plus.
On a beaucoup parlé de l'Occident, du paradigme occidental, de son hyperproduction, son hyperconsommation. Mais justement, Yannick, qui est l'investisseur responsable, avait une autre objection à la décroissance.
Au fond, aujourd'hui, en Occident, on consomme beaucoup plus que ce qu'on devrait. Ça va. Il y a une amélioration à faire. Je pense que ça peut se faire graduellement. C'est tout. Mais par rapport aux 2 milliards de Chinois, par exemple, dont la, quand même, à ce jour, une bonne partie d'entre eux vivent encore dans la pauvreté, par rapport aux milliards d'Africains aussi, qu'est-ce qu'on leur dit à eux alors qu'ils sont aujourd'hui déjà dans des situations un peu plutôt médiocres? Et aussi parce que une bonne portion de la croissance aujourd'hui émane de ces territoires. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit à ces Africains déjà? Eux aussi aspirent à vivre dans des conditions qui plus décentes.
D'abord, ce qui est intéressant, ce qui peut déjà mettre sur la piste d'une réponse à la question de Yannick, c'est que un grand nombre de penseurs de la décroissance sont en fait des spécialistes du développement, sont des économistes du développement. Donc, ce sont des gens qui ont participé à la fameuse entreprise de l'aide au développement lancée par Truman à la fin des années 40 et qui en sont revenus en fait en disant non, on est en train de les emmener dans le mur en fait et pratiquement plus vite que nous et dans une large mesure. Pourquoi ? Parce que cette aide au développement, ça a été du nord par le sud. Et aujourd'hui, comme le dit Yannick, effectivement, cette croissance, à qui elle profite ? Elle profite à une toute petite minorité du sud, qui a été formée au nord, évidemment, dans les bonnes universités, pour penser bien comme il faut, conformément aux exigences de ce système. Et elle profite surtout à des capitaux qui viennent du nord. Donc c'est ce genre de contradiction qu'on pourrait faire valoir. Et à mon avis, il y a bien des gens au sud. Enfin, c'est pas à mon avis. L'idée de décroissance a aussi du succès au sud. Bien des gens au sud qui vont pointer cette contradiction. C'est quoi cette aide au développement qui, en fait, profite fondamentalement aux capitaux du Nord dans une large mesure. Donc l'idée, c'est beaucoup plus de penser les conditions dans lesquelles les humains qui habitent ces pays du Sud pourraient justement reprendre le contrôle de leur vie, reprendre le contrôle de leur territoire, ce qui est plus le cas aujourd'hui en fait, dans une large mesure. Donc il s'agit pas de les laisser tomber, c'est-à-dire bon, on s'en fout du Sud, débrouillez-vous. Mais c'est s'il y a un acte de solidarité à faire vis-à-vis de ces pays, c'est bien de pouvoir les laisser vraiment décider de leur sort en fait, ce qui est absolument pas le cas aujourd'hui, puisqu'on les a embarqués de force. Il faut en convenir dans ce système-là. On va dire aujourd'hui, ouais, regardez tous ces immigrants qui viennent, c'est bien qu'ils trouvent notre modèle que notre modèle est chouette, mais notre modèle a détruit les conditions d'existence dans leur pays. Aujourd'hui, ça le détruit écologiquement, mais ça la détruit économiquement aussi. Donc, s'ils viennent, c'est parce qu'ils n'ont plus les moyens de s'en aller. C'est ceux qui disent ça, ce sont des gens qui n'ont jamais été forcés d'immigrer. Si on est forcé, il n'y a personne qui a envie de quitter son pays s'il y est bien. Donc, c'est pas nos merveilleuses bébelles occidentales qui vont suffire. Donc, c'est bien parce que les conditions d'existence dans ces pays-là sont désastreuses, parce que d'une certaine façon, bon nombre de ces pays sont déjà en état d'effondrement objectif qu'il y a cette immigration. Donc on les a forcés. La meilleure chose qu'on aurait à faire, c'est de pouvoir les libérer. Donc c'est sûr que si nous, on se libère de cette logique de croissance, ça va aussi les libérer. Mais actuellement, notre croissance dépend aussi de cette exploitation du Sud par le Nord. C'est ça le cercle vicieux dans lequel on est.
Je reviens vite fait en Occident, parce que c'est là où on est. En fait, j'ai regardé récemment un reportage qui axait la décroissance non pas sur la production comme vous le faites, mais sur la consommation, c'est-à-dire la consommation bio, toute cette industrie végane, le tourisme bio, les zéro déchet, etc. Je vais vous dire ce que j'en pense, et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est en fait les bobos, on va appeler ça comme ça, les hipsters du Mile End par exemple, avec leurs poubelles organiques, ceux qui ont les moyens, qui n'ont pas de travail industriel ou manuel, qui ont les moyens de ne pas avoir de voiture parce qu'ils vivent près du centre-ville, et qui décident, pour se donner une raison politique, de consommer différemment des autres à des prix plus chers, donc en créant d'autres industries, simplement pour se donner bonne conscience, voire pour culpabiliser la populace des autres.
Ah, je pense que c'est bien envoyé. Donc, comme vous l'avez rappelé au départ, d'où l'importance absolue de dire que le problème se situe du côté de la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je lisais encore ce matin un économiste qui disait oui, on n'est pas sérieux, le principe du pollueur-payeur devrait être mis en œuvre de manière radicale avec une taxe carbone. Bon, mais si on fait ça, votre exemple est excellent. Effectivement, j'ai pas de voiture parce que j'ai un salaire qui me permet de vivre dans un endroit où je peux me passer d'une voiture. Qu'est-ce qui va payer? Bah, c'est celui qui habite le plus loin de Montréal, qui lui n'a pas le moyen de faire autrement que d'habiter loin de Montréal pour venir bosser à Montréal. Donc là, il y a une forme d'injustice qui est indéfendable. Donc on est entièrement d'accord. D'où la nécessité vraiment de penser la transformation du système, en fait. Fondamentalement, si on repense pas complètement la question de la mobilité dans une région comme Montréal, ça n'a aucun sens que d'imposer une taxe carbone. C'est mettre les gens dans des situations impossibles. Ça peut être très intéressant parce que ça va susciter une révolution. Là, pour le coup, si on monte de 50 centimes le prix du gallon ou du litre d'essence, ça va être la révolution. Donc c'est bien, on va changer. Mais ça va la susciter parce que c'est profondément injuste et que la seule façon d'aborder ces questions-là, c'est de dire bon, comment est-ce qu'on peut penser un monde dans lequel déjà on a moins besoin de bouger nécessairement. Qu'est-ce que ce serait qu'une bonne vie? C'est une vie dans laquelle on bouge quand on a envie de bouger. Bon, or aujourd'hui, on bouge parce qu'on est forcé de bouger. Quelques privilégiés peuvent se payer le luxe de prendre l'avion, etc. Mais ça, c'est les gens du Nord, les plus riches. Une grande partie de l'humanité aujourd'hui ne peut plus bouger comme elle pouvait bouger. Comme c'était le cas depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y a une régression énorme à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Les humains se sont toujours déplacés librement partout où les terres étaient habitables. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, s'il y a besoin de mobilité, jusqu'où il y en a besoin? Comment est-ce qu'on pourrait penser des quartiers, des villes, ou des quartiers qui deviennent des villes ou des villages où tout simplement, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour vivre et qu'on y est très bien, tellement bien qu'on n'a pas envie d'en sortir, sauf de temps en temps pour aller voir d'autres humains dans le village d'à côté ou faire un long voyage à pied, hein, ou en bateau ou à bicyclette, mais qui nous libérerait en fait de tout ça. Ça me paraît beaucoup beaucoup plus intéressant que cette histoire de taxe carbone qui serait effectivement un massacre en fait.
Merci beaucoup. Je vais vous laisser le dernier mot, une phrase, une citation, enfin vite fait, ce qui pourrait résumer pour vous cet entretien.
J'ai développé mon petit slogan que je peux, qui pour moi résume un peu la décroissance, quoi. C'est produire moins, partager plus et décider vraiment de nos sorts, de nos conditions d'existence. En fait, c'est aujourd'hui il y a toute une critique de nos institutions démocratiques qui sont critiques tout à fait légitimes. Enfin, on peut dire que nos institutions ne sont pas démocratiques au sens premier du terme. Plus gravement encore, justement, ces institutions et Nicolas Hulot en a fait l'expérience, ces institutions sont sous la domination de ces grands systèmes économiques et techniques qui nous privent de la possibilité de décider nos existences. En fait, c'est ça l'un des cœurs, un des problèmes centraux en fait pour nous. Donc le décider vraiment, ça me paraît crucial.
Merci Monsieur Abraham. C'était Saoud au texte et à la narration, Phil au montage, Bastien à la réalisation, pour une production Cube Radio. Donc on espère vous avoir informé et on vous dit à la prochaine.